Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
Cette femme a vécu comme une sainte et elle sera peut-être bientôt canonisée ou pas. Cette femme, c'est Marthe Robin, née dans la Drôme en 1902, disparue en 1981. Un véritable culte lui est dédié. Pourquoi ? Eh bien, du fait notamment de sa proximité avec Jésus-Christ, dont Marthe Robin vivait et revivait la passion, pour les miracles, dont sa vie aurait été le siège, et notamment l'inédit avec un E, un phénomène surnaturel qui consisterait, je mets ça bien sûr au conditionnel, à vivre près d'un demi-siècle, dans le cas de Marthe Robin, sans manger ni boire. C'est le super fail de la semaine.
Une sorte de tétraplégie brusque fige ses membres, et c'est à partir de 1930 qu'elle ne pourra plus rien absorber, ni nourriture, ni boisson. C'est ce que l'on appelle l'inédit. Quelques saints seulement ont connu cet état, subsistant ici-bas, sans manger et sans boire. La souffrance est donc installée chez Marthe comme chez elle. Les douleurs ne cessent pas dans l'estomac, dans la tête, dans le dos. À partir de 1931, Marthe va commencer le vendredi d'éprouver dans son être, et cela jusqu'à sa mort, la passion de Jésus qui laisse apparaître sur le dos de ses mains et de ses pieds et au côté gauche de sa poitrine des plaies appelées stigmates par la théologie mystique.
Je pense qu'une des clés qui nous aide à rentrer dans ce mystère, c'est de comprendre que ce mystère de la passion de Jésus à laquelle Marthe était unie, est d'abord un mystère d'amour. Si Jésus a souffert, a accepté de souffrir sur la croix, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il aime cette humanité. Et Marthe communiait à cet amour de Jésus. Et donc le mystère de la souffrance de Marthe le vendredi est avant tout un mystère d'amour.
L'histoire que je vais vous raconter est bien étrange, c'est celle de Marthe Robin, petite paysanne de la Drôme au destin hors norme, qui écrivait notamment « Mon Dieu, que mon âme est triste, pourquoi les miens ne sont-ils pas chrétiens? Pourquoi moi, qui suis toute votre vie, je ne me sens pas assez digne, pas assez sainte pour les convaincre ?»
Super fail.
Écoutez Isabelle de Golemin, journaliste à La Croix, vous présenter Marthe Robin.
Alors Marthe Robin, c'est une histoire française, c'est une histoire catholique, c'est les deux en fait. Elle est née au début du siècle, c'est une petite paysanne qui est née à Châteauneuf-de-Galaure, donc c'est un village qui est à 70 km au sud de Lyon, dans la Drôme. Et cette petite paysanne a eu un rayonnement mystique, spirituel assez incroyable. Hein. C'était, par exemple, Jean Guiton était très proche de Marthe Robin. Elle est tombée malade au lendemain de la Première Guerre mondiale, et elle a fait de cette maladie une sorte d'abandon à Dieu, de prière mystique, etc. Elle s'est mise dans une chambre, dans une maison, et ensuite elle a vécu toute sa vie dans une chambre. Dans le noir, en fait, et elle a reçu des milliers de personnes. Alors, dans l'Église catholique, elle a représenté, sans doute, une manière de se raccrocher à quelque chose à une époque où les catholiques étaient très troublés. C'est dans les années 68-70, il y avait la sécularisation, il y avait des catholiques qui remettaient pas en cause Vatican II, qui étaient pas des intégristes, mais qui trouvaient qu'on chamboulait un peu trop leur religion. Et là, il y avait une femme qui semblait avoir un contact direct avec Dieu et qui proposait finalement une figure qui leur permettait de reprendre de l'assurance quelque part. Donc elle a eu beaucoup d'importance sur toute une phase des catholiques, de tous ceux qu'on a appelés les communautés nouvelles, hein, qui ont beaucoup essaimé en France dans les années 70-80, à la suite d'ailleurs d'un mouvement qui venait des États-Unis. Et elle a aussi beaucoup reçu d'évêques, de cardinaux, d'intellectuels catholiques. Donc elle a eu quand même beaucoup de rayonnement. Et en plus de ça, elle a fondé avec son père spirituel qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes, hein, le Père Finet. Elle a fondé ce qu'on appelle les foyers de charité, qui sont des communautés un peu partout dans le monde, et qui sont, il y en a 70 dans le monde entier, et qui effectivement ont connu un succès assez important.
Voilà une femme qui vit dans sa chair le calvaire du Christ.
Cette femme paralysée, donc une espèce de paralysie dont on ne savait pas bien d'où ça venait, elle avait des stigmates, comme un certain nombre de personnes mystiques, hein, c'est-à-dire que de temps en temps, ses mains, c'est l'intérieur de ses mains, on voyait les mêmes stigmates que le Christ sur la croix, avec du sang, semble-t-il, qui coulait de ses mains. Bon, ça, évidemment, ça fait partie. En tout cas, il n'y a pas de preuve scientifique de cette histoire. Et puis, elle ne se nourrissait pas. Donc il y avait ce côté miracle. Par ailleurs, c'était une femme qui semblait avoir une vie mystique très importante. Mais c'est vrai que ce qui est assez impressionnant, c'est comment un certain nombre de catholiques, et de catholiques souvent de hauts responsables catholiques, ont utilisé ce miracle. C'est comme pour dire, bah oui, Dieu existe, d'ailleurs l'Église a bien raison, et voilà, il y a des miracles. Alors qu'on sait bien que, bah, voilà, que croire en Dieu, c'est croire aussi dans le silence.
J'ai souhaité recueillir l'avis de l'historien Patrick Spalchiero. On lui doit notamment une enquête sur les miracles aux éditions Artege.
On peut en dire deux choses. D'abord, il y a pour les personnes et l'entourage concernés une signification, un sens, si vous voulez, spirituel ou mystique. Hein, c'est assez simple. C'est la référence notamment au jeûne du Christ dans le désert, 40 jours, hein, donc au désert sans manger. Ça, c'est la première chose, avec évidemment le détachement des biens matériels, le détachement vis-à-vis de la gourmandise, enfin tout ce qu'on peut imaginer allant dans le sens de l'ascèse, si vous voulez, hein, d'une ascèse mystique. La deuxième chose, elle est d'ordre scientifique et médical. On relève l'existence de ce phénomène depuis des siècles. Hein. Globalement, depuis la fin du 12e et 13e siècle, on a des textes relatant des cas d'inédits. Alors évidemment, plus on recule dans le temps, moins les textes sont souvent précis. Les questions médicales sont évidemment extrêmement rudimentaires et donc on en sait parfois pas beaucoup. En revanche, à partir du 19e siècle, vous avez des cas d'inédits de plus en plus documentés. Et Marthe Robin figure parmi cette liste de personnes, de mystiques, qui ne se seraient pas alimentées pendant plusieurs années, à côté de personnes comme une femme belge, Louise Latou, d'autres personnes qui ont été, d'ailleurs pour certaines, beaucoup mieux étudiées sur le plan médical et clinique que Marthe Robin.
D'ailleurs, très tôt, des doutes se font jour sur l'authenticité de son récit. Déjà, au téléphone sonne sur France Inter en 1981.
Plusieurs milliers de personnes étaient donc rassemblées cet après-midi à Châteauneuf-de-Galore pour assister aux obsèques de Marthe Robin, qui chaque vendredi depuis 40 ans portait, dit-on, les stigmates de la Passion du Christ, vivait en recluse, paralysée et aveugle, et ne se nourrissait, dit-on encore, que de sties consacrées. Mystificatrice pour les uns, véritable sainte pour les autres, Marthe Robin, toute sa vie, a été un sujet de polémique. Et si j'en juge par les nombreux coups de téléphone reçus dès que le thème de l'émission de ce soir a été annoncé, cette polémique n'est pas près d'être close. Mais je voudrais ce soir que nous essayions de dépasser le cas de Marthe Robin pour voir dans son ensemble le problème des phénomènes paranormaux auxquels peuvent être ou peut-être rattachés les stigmates, traduction visible du mysticisme. Des phénomènes devant lesquels l'Église et la science observent la plus extrême prudence, faute de pouvoir trancher de façon définitive.
Cette histoire repose en partie sur une mystification, à en croire Conrad de Mester, le religieux chargé du dossier de béatification de Marthe.
C'est un vrai roman policier, cette histoire.
Isabelle de Golemin.
Conrad de Mester, il faut voir que c'est un carme, donc c'est un religieux. C'est un religieux flamand qui est très connu comme spécialiste des mystiques et des femmes mystiques, notamment Thérèse de l'Enfant Jésus, Élisabeth de la Trinité, etc. Donc c'est quelqu'un pour qui les mystiques, et notamment les mystiques femmes, sont des gens intéressants. Et au début, il avait plutôt sur Marthe Robin un regard positif. Il s'est passé le fait que l'évêque du lieu où Marthe Robin est morte, donc de la Drôme, a demandé à Conrad de Mester de regarder les écrits de Marthe pour faire ce qu'on appelle la positio, qui est un énorme document qui va ensuite être envoyé à Rome, qui va juger pour savoir si la personne peut ou non être apte à devenir saint quelque part. Donc c'est à cette positio que le père de Mester a participé, et c'est en travaillant sur les écrits de Marthe Robin, sur les témoignages, etc., que lui, il est apparu qu'il y avait une forme de falsification des choses, notamment parce que Marthe Robin, en fait, faisait beaucoup de copier-coller, comme on dit aujourd'hui, dans ce qu'elle écrivait, c'est-à-dire qu'elle s'inspirait beaucoup d'autres écrits mystiques. Alors, c'est pas tant de relire et redire ce que d'autres ont dit, mais c'est qu'elle s'attribuait les messages de Jésus que d'autres mystiques s'étaient attribués. Donc elle disait, Jésus m'a dit, et puis là, elle répétait quelque chose que, par exemple, la petite Thérèse avait dit. Donc là, il y a quelque chose qui, pour en tout cas le père de Mester, ne va pas. Donc il a fait cette position, il l'a envoyé à l'évêque du coin, qui l'a envoyé à Rome, et à Rome, donc la congrégation pour les causes des saints, qui est une espèce de tribunal qui juge de la sainteté des gens, a estimé que ce travail-là ne valait pas le coup qu'on s'y arrête, qu'il y avait largement assez de choses pour dire qu'elle pouvait être sainte. Donc Conrad de Mester, semble-t-il, a été assez meurtri de ça, et il a continué son enquête, il a continué jusqu'à la fin de sa vie, c'est ça qui est incroyable, et quand il est mort, ses supérieurs ont trouvé ce livre après être publié. Donc c'est un livre posthume qui est arrivé chez l'éditeur de manière quand même assez curieuse. Voilà, donc c'est toute une histoire, et alors ce qui est intéressant, c'est que ce prêtre va tout regarder, tous les écrits, il va regarder aussi tous les signes. Alors il dit, par exemple, les chaussons de Marthe, ils étaient usés, donc elle marchait. Par exemple, on a vu sur son oreiller, il y avait des choses qui montraient qu'elle pouvait bouger de son lit. Quand elle est morte, en fait, elle est morte hors de son lit, donc elle était en train d'aller chercher à manger. Enfin voilà, il va prendre tous les indices, et donc ce livre est assez glauque, il faut bien le dire, mais aussi il s'est livré à une vraie enquête policière avec une minutie incroyable, qui correspond à son tempérament. C'est un savant, c'est un théologien. Voilà, pour lui, la foi est quelque chose de sérieux. Et je pense que quelque part, il a été très choqué par ce qu'il a trouvé.
Et les propos de Conrad de Mester sont sans appel. Alors, Marthe va-t-elle être canonisée?
Alors, elle est possible.
Patrick Sbalchiero.
Elle est possible pour deux raisons, et pour une raison très simple, c'est que l'Église catholique n'a pas pour tradition de béatifier et a fortiori de canoniser qui que soit pour des phénomènes mystiques. Saint François d'Assise, au XIIIe siècle, n'a pas été canonisé parce qu'il était stigmatisé. Au XIXe siècle, Sainte Bernadette Soubirou n'a pas été canonisée parce qu'elle a vu la Vierge. La canonisation porte sur la foi et les vertus religieuses et morales. C'est complètement différent. Et l'une des plus grandes saintes populaires de l'ère contemporaine, Sainte Thérèse de Lisieux, n'a jamais vécu aucun phénomène mystique digne de ce nom. Voyez-vous. Donc, le fait que Marthe Robin soit sujet, oui ou non, à l'inédit, à la stigmatisation, au stigmate, à des révélations privées, à des prophéties, enfin, ce que vous voulez, là, c'est totalement indépendant. Seconde chose, à la fin des années 90, l'ancien postulateur, le père Pérousse, donc de Marthe Robin, a porté aux autorités religieuses le récit d'un miracle. Un miracle qui aurait eu lieu à l'intercession donc de Marthe. C'est un document qui est encore à l'étude. C'est encore un document qui est encore à l'étude. Il s'avère que si le miracle est reconnu, la béatification de Marthe devient possible à ce moment-là, effectivement.
L'essentiel est invisible pour les yeux, a-t-on coutume de dire. C'est encore plus vrai pour le surnaturel, enfin pour ceux qui ont du mal à croire au surnaturel. Pendant des années, on a ainsi pu croire qu'une femme qui ne s'alimentait jamais réussissait malgré tout à écrire. Je vous laisse décider laquelle de ces deux croyances est la plus énorme. Superfell a été ruiné par Félicie Faugère et Vivien Demeyer à la réalisation, piétiné par Juliette Deveau à la production et enfin détruit à la technique par Stéphane Poitevin. Superfell.